Ici Steve Bergeron, bienvenue à votre capsule info CFLX. Humano District, l'entreprise de revitalisation immobilière, commerciale et communautaire des terrains et de l'ancienne maison générale des Petites Sœurs de la Sainte-Famille rue Galt-Ouest, s'annonce pour devenir également un nouveau pôle culturel sherbrookois. C'est du moins sur cette voie que s'engagent plusieurs intervenants et intervenantes du milieu culturel. Un important pas dans cette direction a d'ailleurs été réalisé en juin avec le déménagement du Conseil de la culture de l'Estrie dans l'édifice principal. Présidente du Conseil, Sylvie Albergeron explique que ce besoin de pôle culturel a été exprimé pendant les États généraux de la culture en Estrie, lesquels se sont déroulés en continu sur une période d'environ 10 ans.
Ce qui a émané des discussions, des débats aussi et des réflexions, c'était d'offrir aux artistes notamment 3 choses qu'on a appelées, nous, après coup, services mutualisés. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui vont se partager des ressources manquantes ou en raison de la pénurie de la main-d'œuvre ou de la non-expertise, peu importe. Il y avait une autre question qui s'était imposée, la philanthropie culturelle. Comment on peut partager le peu de financement entre nous. Et il y avait les espaces collectifs à partager.
Parmi les services que pourraient se partager les membres du pôle culturel, Sylvie Albergeron cite la comptabilité et les communications. En ce moment, bon nombre d'organismes culturels et de compagnies artistiques n'ont pas les moyens d'embaucher une personne à temps plein, ce qui rend beaucoup plus difficile la rétention de ses employés. Pour imaginer cette structure particulière de services mutualisés, le Conseil de la culture de l'Estrie s'est notamment inspiré de réalisations semblables en France. Ultimement, un rapprochement s'est fait avec Humano District, dont l'axe de développement a toujours comporté une dimension culturelle, explique le promoteur immobilier Mathieu Cardinal.
On a toujours eu l'axe 1 de la revitalisation et du maintien du patrimoine bâti. De la santé a toujours été un axe sur lequel on voulait occuper ce bâtiment-là, l'éducation, l'art et la culture, l'économie sociale et le communautaire. Donc, l'art et la culture a toujours été dans notre vision. La question, c'est comment on le fait? Et des discussions avec le Conseil de la culture, avec des artistes, il y en a toujours eu. Il y a eu, on se rappelle, pendant la pandémie, Ariane Deslions qui est venue monter un de ses spectacles. On a fait toutes sortes de tests pour voir comment ça réagissait, ce bâtiment-là, quand il y avait de la création dedans. Est-ce que ça dérange? Est-ce que les usages mixtes fonctionnent bien? La réponse est évidemment oui. Donc là, on arrive avec le Conseil de la culture qui s'est installé récemment. On est rendu à déployer ce projet-là dans l'ancienne chapelle qui a été conservée et quelques locaux supplémentaires parce que c'est le symbole, c'est le joyau de ce bâtiment-là.
Humano District jouera donc beaucoup plus que le simple rôle d'un locateur d'espace.
Il faut agir comme un facilitateur, comme un acteur qui va venir permettre des essais-erreurs pour avoir des projets viables à la fin de la journée, contribuer au financement, pas juste en donnant de l'argent, mais en convainquant des créanciers, des usages, en participant au modèle financier, que ça fonctionne bien.
Dans la dernière décennie, d'autres lieux pour installer le pôle culturel avaient été envisagés, mentionne Sylvie Albergeron, notamment au QG de l'entrepreneuriat rue Wellington Sud et dans l'ancienne église Plymouth Trinity, mais ils ont été abandonnés. Résultat, certains organismes ont fini par se retirer du projet. Une des prochaines étapes consistera donc à remobiliser les troupes.
Il faut revoir tous les gens qui étaient à la ligne de départ. Il y en a qui sont encore intéressés. Salon du Livre, par exemple, qui est déjà là dans un bureau, mais veut-il faire partie du collectif? C'est une autre histoire. Il faut refaire nos devoirs parce que, effectivement, ça fait un petit bout qu'on n'a pas parlé à ces gens-là. Moi, je pense qu'ils sont encore intéressés, mais les conditions ont changé, favorables ou moins. Mais tous ces gens-là cherchaient un lieu collectif ou cherchaient un autre lieu. Donc, ça change un peu la donne, mais il y a peut-être d'autres joueurs dans le décor, puis ça, on le souhaite.
L'autre grande étape à venir, probablement l'automne prochain, sera de choisir et d'établir la structure financière et administrative du nouveau pôle culturel pour que celui-ci soit viable et durable sur les plans financiers et organisationnels. Pour sa part, Mathieu Cardinal croit suffisamment au projet pour être capable, estime-t-il, d'attirer des investissements privés.
C'est presque la dernière composante, la composante agriculture qui va se déployer. Quand c'est la dernière composante, c'est peut-être plus facile de convaincre en disant, regardez, on a des logements sociaux, on a des logements traditionnels au marché, on a des cliniques, on a des centres sportifs, on a des salles de francisation, des salles en matière d'éducation, l'université s'est installée, a des auditoriums, etc., etc. Le bâtiment est occupé maintenant. Donc, il reste à faire la dernière composante. On pense que ça va être beaucoup plus facile de convaincre les milieux et évidemment la capacité de se financer pour déployer ce projet-là.
Sylvie Elbergeron souhaite surtout éviter ce qui est arrivé au projet de l'artiste Marc Séguin à Montréal.
Il y avait un édifice à Montréal. Il y avait des artistes, beaucoup, puis c'était pas cher au début dans le Mylan. Mais le Mylan est devenu finalement tous les appartements, l'édifice en question, les ateliers ont triplé. Mais il y a des artistes qui n'étaient plus capables de payer. Fait que nous, on veut pas ça.
C'était Steve Bergeron pour l'initiative de journalisme local CFLX.